Salut, ACDC, c'est mon groupe préféré et il faut croire que j'ai transmis la passion à mon fils puisque il y a 3 ans, quand il était en petite maternelle, j'ai été convoquée par son institutrice parce qu'à 3 ans, monsieur voulait bien chanter à les fêtes de l'école mais seulement du ACDC et pas les comptines pour les enfants. Ça s'est bien terminé, mais il a quand même fallu négocier sévère pour arriver à lui faire chanter une petite souris verte.
Voilà, juste pour le kiff d'entendre Guns N' Roses sur France Inter. Bisous, rock'n'roll.
C'était juste pour dire que, pour moi, le meilleur, l'unique chanteur des CDC, c'est Bon Scott, une voix exceptionnelle, acide, diabolique, alors que son successeur a simplement une voix aiguë. Donc deux périodes, et la première est meilleure. Au revoir.
Ah oui, j'oubliais, puis il y a Metallica aussi, c'était pas mal. Hein. Pas mal.
C'était pour vous donner le sens figuré de AC/DC. Dans tout le monde anglophone, to be AC/DC, ça veut dire être à voile et à vapeur, c'est-à-dire être bisexuel.
J'ai 80 ans, j'aime beaucoup AC/DC, et ce que je voudrais, c'est pour mes funérailles qu'on fasse écouter Highway to Hell. C'était pour dire que j'appréciais cette émission. Au revoir.
Et là, Nirvana est arrivé. Et ça a tout changé. Ça bouge, ça, France Inter, hein, ça bouge.
To be or not to be, not to be.
C'est assez facile de critiquer un film. Tu le vois, ça te prend 1h30 de ta vie, tu l'aimes ou tu le détestes, t'en parles ensuite. Critiquer un livre, c'est plus compliqué. Déjà, faut le lire. Je travaille depuis assez longtemps dans les médias pour vous garantir que ça n'est pas toujours le cas. Ça vous prend plusieurs heures si vous avez fait des études, plusieurs mois si vous travaillez sur Énergie 12. Ensuite, le livre dont vous allez parler n'est pas forcément le livre qu'un autre aura lu. Dans votre tête, par exemple, tel personnage ressemblera à votre tante Annie, tandis que pour un autre lecteur, ça lui évoquera Madame Guérini, la voisine de sa maison d'enfance. Lire un livre, c'est accepter de mélanger une part de soi avec celle de l'auteur. Critiquer un jeu vidéo, par contre, c'est tout autre chose. Déjà, faut avoir fini le jeu dans son intégralité pour comprendre l'histoire, les rebondissements, sa dramaturgie. Et ça, déjà, ça peut te prendre des jours. Je me souviens d'une époque lointaine et d'une sauvegarde de Final Fantasy VII qui comptabilisait 99 heures de jeu, c'était bloqué. Mais surtout, il faut savoir y jouer. Car si t'as deux mains gauches, est-ce que c'est le concepteur du jeu qui est à blâmer ou ton propre manque d'adresse ? C'est pour ça que les médias traditionnels s'intéressent assez peu aux jeux vidéo, parce que ce dernier demande un temps et une dextérité que beaucoup de critiques n'ont pas. Aujourd'hui, on va parler d'une saga à laquelle je joue depuis plus de 22 ans, tout support confondu, un jeu miroir du regard que l'industrie du jeu vidéo porte sur les femmes depuis 2 décennies, Tomb Raider ou Les 1000 visages de Lara Croft.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Oui. Ah, Lara, comment allez-vous?
Je suis en vie.
En un seul morceau, j'espère?
Oui, et vous?
C'est la super forme.
À un détail près, vous avez ma moitié de triangle.
Et vous, l'horloge de mon père, monsieur Powell?
Au point où nous en sommes, nous avons besoin l'un de l'autre, ma chère.
Nous devons réviser nos positions. Que cela vous plaise ou non, nous devons faire affaire, vous et moi. Il faut nous voir pour en parler.
Oui, et cela vous donnera une nouvelle occasion d'essayer de me tuer.
Oh, quelle idée, Lara! Mais pourquoi pas? Qui vivra verra. Retrouvez-moi à Venise, Villa de la Rossa.
Merveilleux. À bientôt.
En 22 ans et plusieurs jeux, Lara Croft est un des personnages de jeux vidéo les plus connus au monde. Sa longue natte, ses pistolets à la ceinture, son short et son body vert, ainsi qu'une poitrine à géométrie variable suivant l'époque, auraient tendance à faire oublier qu'avant d'être une pin-up numérique hypersexualisée, Lara Croft est surtout l'héroïne d'un jeu d'aventure formidable et révolutionnaire pour l'époque. Un jeu fait de tombes mystérieuses à visiter, de pièges à désamorcer, dans des jungles hostiles ou dans des cités oubliées, tout en combattant des hordes d'animaux dangereux et des mercenaires avides de richesses et de domination mondiale. Si le cinéma nous avait donné un goût d'aventure avec Indiana Jones, Lara Croft, elle, nous la faisait vivre. À mes côtés, pour parler de la plus célèbre pilleuse de tombes, car on va pas se mentir, une archéologue comme Lara Croft, on appelle plutôt ça un braconnier, hein, j'ai mon camarade Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour Frédéric.
Alors Olivier Bénis, on rappelle, hein, vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter, passionné de jeux vidéo, vous êtes même le monsieur jeux vidéo de France Inter,
si je ne m'appelle. Oh, bah écoutez, si vous voulez le dire, je ne vais pas vous en empêcher.
Mais moi j'aime bien donner des
titres
comme ça.
C'est un plaisir et un honneur en tout cas d'être ici.
Parfait. Également à nos côtés, et je suis ravi, Carole Quintaine.
Bonjour.
Bonjour Carole. Alors vous êtes journaliste de jeux vidéo, youtubeuse, et vous avez plus de 80 000 abonnés qui vous suivent dans vos pérégrinations, quand vous faites des parties retransmises en direct. Enfin, il y a vraiment toute une fanbase qui est énorme.
Exactement, bah oui, qui est surtout très fidèle et qui aime le jeu vidéo autant que moi, donc c'est cool.
Et également Alexandre Serrel, l'auteur de l'histoire de Tomb Raider. Donc on a affaire à quelqu'un qui aime vraiment ce jeu.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Voilà, donc paru le 17 mars 2007 aux éditions Pix & Love, c'est oui. L'histoire de Tomb Raider de 1996 à 2008, l'Odyssée de Lara Croft.
Oui.
Ensemble, on retracera l'historique de la saga Tomb Raider, l'évolution de Lara au fil des ans, ce qu'elle a représenté et représente encore aujourd'hui dans la pop culture, les polémiques qui ont entouré cette représentation de la femme dans le jeu vidéo, et on se demandera ensemble si le mouvement MeToo et le hashtag Balance ton port sont finalement arrivés jusque dans l'industrie du gaming. Alors aujourd'hui, dans Blockbuster, on va tenter de savoir si féminisme et jeux vidéo sont des mots qui vont bien ensemble. Chose, Alexandre Serrel, est-ce que vous pouvez nous dire comment est né le personnage de Lara Croft ?
En fait, elle est née homme, déjà. mais en fait, plus exactement, c'est dans un studio anglais de développement qui s'appelait Core Design, qui n'existe plus, qui était situé à Derby, dans le Derbyshire. Et en fait, c'est Lara Croft est arrivée avec la 3D. En fait, le patron de Core Design avait vu la PlayStation, les employés de Core Design avaient vu la Sega Saturn de Sega.
Je te rappelle, c'est des consoles de salon.
Voilà, des consoles de salon, et c'était les premières à réellement proposer de la 3D polygonale, qui fonctionnait réellement. Et en fait, tout simplement, le patron de Core Design a dit à ses employés, il va falloir créer des concepts de jeux en 3D, parce que c'est la nouvelle mouvance, c'est ça. Et en fait, il y a un très jeune employé qui avait 21 ans qui s'appelait Toby Gard qui s'est dit en clair il y a Indiana Jones, moi j'aimerais bien faire un truc qui ressemble à Indiana Jones, mais l'idée de base était trop similaire au film en fait, et petit à petit avec un peu de travail est apparue Laura Croft, parce elle s'appelait pas encore Lara Croft à ce moment-là.
Elle s'appelait Laura Croft.
Laura Croft, oui.
Donc elle était hispanique ?
Oui, enfin d'origine hispanique, oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'on en a fait une aristocrate anglaise ensuite ?
Alors ça c'est une anecdote assez c'est une anecdote qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'ils ont créé un niveau d'entraînement pour manier le personnage, et en fait le niveau se passait dans un manoir pour qu'on ait la place de se libérer, et finalement c'est juste une réécriture en disant elle va être aristocrate, voilà, et donc elle est restée Lara Croft. Et en fait, ils se sont aperçus que ça sonnait pas du tout anglais, ça collait pas avec le personnage, et en fait, quand ils ont dû doubler les voix, Croft ça marchait pas, donc en fait ils ont changé par Croft.
D'accord. Voilà. Manoir et lieu d'entraînement dans lequel il y avait ce majordome.
Oui.
Qu'on a tous enfermé, je pense, dans le frigo ou à un moment donné.
Oui.
Vous aussi. Oui, pas fan.
Aussi, oui, parce qu'en fait, j'explique aux éditeurs, il y avait le majordome de Lara Croft qui était là avec des collations, et il nous suivait un peu partout, et à un moment donné, on pouvait l'enfermer dans le frigo. Vous allez me dire, ça n'a absolument aucun intérêt, mais quand tu es jeune et que tu joues à ça, c'est rigolo.
Est-ce qu'il y a encore dans ce frigo?
Je pense qu'il y a encore. Il attend.
Moi, j'ai posé la question aux développeurs pour savoir s'ils se doutaient que les joueurs allaient faire ça. Et en fait, Heather Gibson, qui a travaillé sur les deux premiers Tomb Raider, elle m'a dit, si j'avais su que les joueurs auraient fait ça, j'aurais fait une animation exprès pour le laisser dans le frigo avec des stalagmites, des machins, des trucs. Mais elle m'avait dit, on n'avait pas du tout prévu que les joueurs fassent ça, l'enferment dans le frigo.
En mode un peu Shining.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Et alors, le look de Lara Croft, comment ça s'est décidé?
Alors, on part sur une base donc fin 93, début 94, sur une inspiration qui vient du comic Tank Girl, qui est issu de... C'est un comic post-Margaret Thatcher en Angleterre.
Comics indépendant.
Indépendant, très 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 libertaire, donc c'est-à-dire qu'il se permet tout, qu'il fait tout et n'importe quoi, qui met un personnage fort en avant. Alors, une...
qui, d'ailleurs, qui a été adapté en film.
Oui, qui était complètement foiré d'ailleurs, mais le comic se permet tout et ose un peu tout et n'importe quoi, c'est post-punk. Et en fait, le départ de Tomb Raider va partir sur cette direction artistique-là. Et elle va se modifier au fil du temps, en fait, comme dans plein de jeux vidéo. Donc, ce qui fait que c'est pas étonnant au début de voir Lara Croft avec une poitrine énorme sur les premiers dessins, parce qu'en fait, tout est déformé, rien n'est réaliste. Et il y a des choses qui vont rester au fil du temps. La poitrine en fait partie.
D'accord, et le short
Le short, c'est une imitation technique, en fait. Ça n'a rien à voir avec... parce que, en fait, les jointures des jambes, c'était très limité. Hein. On parle de 200 polygones pour créer un personnage. Et en fait, quand on faisait un effet pantalon avec la jointure de la jambe, ça marchait absolument pas. C'est pour ça qu'elle a un short, en fait. C'est parce que la couleur chair, ça fait beaucoup mieux au niveau de la jointure. Voilà.
Donc, en fait, le look de Lara Croft est quand même un heureux accident.
Complètement. Il est lié à des limitations techniques.
C'est un peu la moustache de Mario, quoi.
C'est ça, voilà.
Et d'ailleurs, la natte dont j'ai parlé dans mon édito n'apparaissait pas dans le premier, c'est-à-dire qu'elle n'était pas animée.
Ouais, j'en ai parlé avec eux et justement, en fait, ils me disaient que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris comment programmer. Donc, en fait, ils avaient programmé tous les mouvements au lieu de laisser la natte libre de faire ce qu'elle voulait. Et à partir de Tomb Raider 2, ils se sont dit, on laisse la natte faire ce qu'elle veut, elle va bouger comme elle veut, quoi. Alors qu'au début, ils avaient programmé tous les mouvements à part un, ce qui faisait ramer le jeu. C'est pour ça qu'elle n'a pas de natte dans Tomb Raider 1, parce que le jeu ramait à cause de la natte.
Et ça tient un peu de choses.
Ouais.
Alors, on parle féminisme et jeux vidéo dans cette émission spéciale sur Tomb Raider. Et comme on parle féminisme et on parle femme forte, eh bien évidemment, on va écouter Beyoncé et son tube, appréciez mon anglais, Run the World. Le titre est sorti en 2011 dans l'album sobrement appelé 4, car c'était le quatrième album de la chanteuse, bien évidemment. Hein, comme quoi, des fois, on n'a pas à se fatiguer. On l'écoute.
Who run this mother?
C'était Run the World de Beyoncé dans Blockbuster sur France Inter. Et elle sera en France, Beyoncé, très bientôt, de nouveau. Hein, parce qu'après avoir loué le Louvre, ils se sont dit, bah tiens, on va se faire un petit concert le samedi 14 juillet et le dimanche 15 au Stade de France avec son mari Jay-Z. C'est le monsieur qui sourit jamais pendant les clips, là, qui reste là et qui se fait coiffer devant la Joconde. Et puis le mardi 17 juin au Stade Alliance Riviera de Nice.
Ma très chère Lara, je me dis souvent que mon père se retournerait dans sa tombe s'il savait à quel point j'ai déshonoré le nom de notre famille. Croft, qu'est-ce que cela signifie? J'espère juste que tu arriveras à laisser une trace dans ce monde un jour. Souviens-toi, l'important, ce sont les choses que nous accomplissons, pas qui nous sommes.
J'avais déjà écouté cette bande des milliers de fois. Mais à cet instant, j'ai eu l'impression d'entendre les paroles de mon père pour la première fois. Peu importe ce qu'il aurait fait, je dois faire mes propres choix. La cité de Kitej existe bel et bien. Il se cache des secrets là-dehors qui peuvent changer le monde. Je dois les découvrir. Pas pour mon père, ni pour qui que ce soit d'autre. Mais pour changer les choses. Espérons que ce soit pour le mieux.
Carole Quinten, oui. Lara Croft, elle a un petit problème d'Œdipe, non ?
Je pense que comme toute femme qui a envie d'évoluer dans ce monde de brut, parfois s'inspirer de son père, ça peut aider. C'est vrai que quand ton père a suscité la fierté chez toi, t'as envie de marcher sur ses pas. C'est vrai qu'elle a une histoire, elle est très liée à son papa. Donc je pense que c'est plutôt avoir envie de continuer à écrire l'histoire après le départ de son père.
Et aussi le venger quelque part.
Et le venger.
Il y a un peu d'électre chez Lara Croft.
Absolument. Bah oui, elle a envie de venger son père, elle a envie de sauver le monde, elle a envie de continuer en fait à faire ce que lui faisait, de marcher sur ses traces. Donc c'est effectivement une histoire de vendetta et en même temps une histoire de fierté personnelle.
Et personnellement, à quelle époque vous avez découvert Tomb Raider ?
En 96.
Avec
le premier Tomb Raider, je pense comme toutes les personnes dans cette salle, c'est vrai que c'était la première héroïne qui arrivait à vraiment te transporter dans cet univers un peu à la Indiana Jones. Moi, j'étais fan d'Indiana Jones et de découvrir cette femme qui arrivait à faire aussi bien qu'un homme et qui arrivait en plus à être belle et sexy tout en étant une aventurière courageuse, parce qu'avant d'être une belle femme, c'est quand même une nana qui en a dans le pantalon, enfin dans le short, plus précisément. Et c'est vrai que c'était assez inspirant, ouais, pour la jeune fille que j'étais.
Et Olivier Bénis, donc 96 aussi la découverte de la
raconte. 96 aussi, et c'était aussi inspirant pour le jeune homme que j'étais.
C'est vrai, quand vous dites ça, il y a une étoile, des petites étoiles dans les yeux.
Oui, mais c'est pas tellement sur le côté un peu attendu justement de c'est une héroïne super sexy et tout. C'est-à-dire que moi, je sais que ce qui m'avait fait attendre ce jeu avec impatience et qui me l'a fait acheter avec la PlayStation. D'ailleurs, à l'époque, je suis allé acheter les deux en même temps en me disant je commence la PlayStation, je commence Tomb Raider. C'était le côté exploration. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, c'est l'entrée du jeu vidéo dans la vraie 3D, dans cette 3D qui permet de reproduire des environnements qui à l'époque nous paraissaient super réalistes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des pixels de 2 mm de large, donc ça fait un peu mal aux yeux si on le reprend aujourd'hui. Mais il y avait ce côté dans Tomb Raider de gigantisme en fait des décors qui faisait qu'on arrivait dans un temple englouti, dans une grotte, devant une statue gigantesque, et il y avait toujours cette sensation d'être tout petit par rapport à ce nouveau monde qui s'ouvrait à nous. Et Lara Croft, en plus, était un personnage qui était attachant foncièrement dès le départ, et qui permettait elle nous prenait par la main, en fait, pour aller explorer tout ça, explorer les dangers à notre place, en fait, parce qu'elle mourait quand même beaucoup dans ce jeu. Mais voilà, il y avait cette sensation d'être un peu Indiana Jones qui suit Lara Croft.
C'est ça, et surtout d'incarner un petit peu cette Indiana Jones féminin.
Parce et d'ailleurs, en fait, le jeu, c'est comme s'il avait été basé sur la toute première séquence d'Indiana Jones et dans l'Arche perdue, avec la boule qui dévale comme ça. C'est comme si tout le jeu avait été conçu dans cet univers-là.
Ouais. Exactement, et tu imagines, t'as toute une génération qui aurait aimé être Indiana Jones et qui aujourd'hui, enfin qui en 96 pouvait incarner cette aventurière qui arrivait, comme tu le disais, dans un monde gigantesque avec une ambiance hyper prenante, des musiques, la musique y est pour beaucoup effectivement, ouais. Mais c'est vrai que ce genre de jeu, aujourd'hui on en voit beaucoup, mais à l'époque c'était ultra novateur.
Tu trouves qu'on en voit beaucoup ?
Aujourd'hui on en voit beaucoup, oui. On en voit beaucoup des jeux comme ça, mais attends, qui n'ont peut-être pas l'identité d'un Tomb Raider. Tomb Raider a une identité très particulière, mais aujourd'hui des jeux d'aventure, alors je pense évidemment à Uncharted, mais même même quand on regarde le dernier Zelda, voilà. Ça, moi, je suis transporté plus... dans des univers qui sont quand même incroyables, gigantesques, avec un sens de, du voyage et un goût pour la liberté qui est assez hallucinant.
Ouais, tu vois, moi j'ai ressenti plus du Tomb Raider dans le dernier Zelda que dans Uncharted. Tu vois. Zelda, il y a des fois où je me suis dit, oh, tu sais, t'as le petit truc où tu dis, ah ouais. C'est marrant, comme en 96 quoi.
Oui, des paysages incroyables avec une musique et quelquefois juste le fait de se promener est suffisant pour amener une idée d'évasion.
On parlait de la musique, mais il y a quelque chose qui avait un énorme rôle dans Tomb Raider, c'était l'ambiance sonore hors musique justement. Il y a quasiment tout le jeu se passait sans musique en fait. Contrairement justement aux derniers épisodes où c'est très hollywoodien, c'est très avec des grandes musiques grandiloquentes. Dans le premier Tomb Raider et un petit peu moins dans les suivants, quasiment tout était basé sur le son, c'est-à-dire qu'on entendait des gouttes qui tombaient, des petits bouts de rochers qui s'effritaient. Il y avait vraiment une immersion sonore à l'époque qui était, moi je crois pas que ça m'ait... Enfin, je me souviens pas d'un jeu qui faisait ça en fait avant.
Alors, il y en avait un, mais il y en a eu quelques-uns. Mais il y en a eu quelques-uns, dont un qui est ressorti récemment sur la Switch, qui s'appelle Flashback. Qui est un jeu vraiment excellent et dans lequel tu as très très peu de musique justement. Tu te réveilles dans la jungle de Titan, une des lunes de Saturne, et tu as cette ambiance d'environnement avec les insectes, avec les bruits de la nature, et je trouve que c'est parfois encore plus parlant, encore plus immersif qu'une musique.
Et d'ailleurs sur Flashback, ça a été beaucoup cité comme inspiration pour les mouvements de Lara Croft qui étaient très calculés comme ça, et ça ressemblait beaucoup au mouvement du héros de Flashback. Pour situer aux gens qui connaissent pas, Flashback c'était un jeu des années 90, début
93,
des années 90,
92,
93. Qui était assez innovant pour l'époque parce que c'était de la 2D, donc c'était en vue de côté, mais les déplacements étaient très très bien rendus. C'était, il y avait un objectif de faire du réalisme dans la façon de se déplacer et des choses très acrobatiques et très fluides que reprenait beaucoup Lara Croft. Et un des premiers trucs qu'on pouvait faire avec Lara Croft et qu'on a tous fait au départ, c'est qu'elle pouvait faire le poirier.
Évidemment, le poirier.
Ça avait l'air de rien, mais c'était génial.
Alors Lara Croft est une icône de pop culture au même titre que Batman ou James Bond désormais, et on est allé demander aux gens qui ne fuient pas devant un micro France Inter ce que Tomb Raider leur évoquait.
Tomb Raider, ouais, c'est Lara Croft, ouais. C'est pas trop mon style de jeu, moi, perso.
C'était un de mes premiers jeux vidéo et j'ai pas pu passer les premières 10 minutes de jeu parce que je comprenais pas. Et du coup, j'ai lâché le jeu et ma maman, vu qu'elle comprenait pas, et ben elle a revendu le jeu. Donc pour moi, ça, c'est un peu un faux départ avec la saga Tomb Raider.
J'ai dû jouer un petit peu, mais je suis pas super bon dans ces jeux de dextérité là. C'est vraiment pas le genre de jeu qui me convient. Je suis plus FPS, truc un petit peu plus bourrin. Donc.
J'ai vu les films, mais j'ai pas joué au jeu. Il était grave intéressant, surtout le nouveau là qui vient de sortir et tout. Mais je préférais quand même le Tomb Raider avec Angelina Jolie.
Ouais, c'était grand public, quoi, on va dire. C'était correct, Angelina Jolie, bon... C'est Angelina Jolie, donc... on va dire que pour quelqu'un de la gente masculine, ça passe bien.
Très personnellement, je suis gênée avec l'image de Lara Croft parce que j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup trop sexualisée.
J'adore Lara Croft. Parce qu'elle est stylée, elle a son caractère.
Je suis plutôt film de Nolan en fait, hein, donc Tomb Raider, c'est pas trop mon truc, non.
Oui.
Voilà, il avait envie de passer la référence. Je suis plutôt film de Nolan, moi. Voilà, je suis un esthète. Alors, je rappelle que vous pouvez tout l'été, via notre répondeur, nous laisser des messages au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Donc là, vous pouvez laisser des messages sur Tomb Raider ou plus généralement sur l'image des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Hein, ce sujet qu'on va aborder dans la deuxième partie de l'émission. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, n'hésitez pas à laisser un message et d'argumenter. On a besoin de vos témoignages, c'est aussi votre émission. J'ai pas du tout envie de faire de blockbuster, un précaré comme ça, où personne n'intervient. Alors, on a pu l'entendre dans le micro-trottoir, les gens parlent de Lara Croft comme d'une icône, et c'est souvent ce qui revient, c'est les films, mais on parle assez peu du jeu, comme si Lara Croft s'était échappée de son univers vidéoludique pour devenir une sorte d'icône comme ça, très, justement, très physique.
Bah c'est le problème c'est le problème avec les personnages qui ont énormément de charisme comme ça et qui ont vraiment une identité très marquée. Forcément, le personnage prend le pas sur l'univers et elle devient à elle-même Tomb Raider. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode de Tomb Raider, donc le dernier épisode de la trilogie, Shadow of the Tomb Raider, justement, la jungle redevient l'un des seconds, finalement le second personnage du jeu. Et ça, c'est ce qu'on ressentait dans les premiers opus. On avait vraiment cette jungle, cet univers qui qui faisait vraiment partie, c'était le jeu au-delà de Lara Croft, et c'est après qu'elle est devenue effectivement une icône et que ça a pris un petit peu le pas.
Ouais. Et Alexandre Serrel, oui, est-ce que la politique de communication autour de Lara Croft, notamment des studios Eidos, n'est pas responsable
oui,
du mythe Lara Croft très sexualisé finalement?
Si, parce qu'en fait, l'équipe du jeu, ils étaient que 6. Il faut rappeler quand même, dans l'équipe, il y avait 2 femmes, donc et j'en ai parlé avec eux de sexualité ou de sexisme ou quoi que ce soit. En tout cas, elles n'en ont jamais subi dans les studios, ou bien au contraire, et que en fait, quand ils ont créé Lara Croft, ils avaient le personnage. Oui, bah c'est bien, maintenant il va falloir faire un jeu derrière. Donc ils l'ont un peu oublié dans le développement, Lara Croft. Et Eidos, quand ils ont acheté Core Design en avril 96, donc le premier Tomb Raider n'était pas sorti, eux, toute la com, ils l'ont axé sur l'aspect sexuel du personnage, ce qui a fait que le créateur de Lara Croft, Toby Gard, n'a clairement pas apprécié, et il est parti après le premier, en fait. Parce que pour lui, il voyait pas son personnage en maillot de bain sur une plage, c'était pas possible, quoi. Donc il avait pas tort, finalement, parce qu'on n'a jamais vu Steven Spielberg vendre les films Indiana Jones avec Harrison Ford en maillot de bain, quoi.
Non.
Et ben non. Pourquoi l'avoir fait avec Lara Croft, quoi? Et ils l'ont fait.
Puis il faut pas le faire, hein, surtout pour le prochain, il faut pas le faire.
Harrison
Ford ne doit pas être comme ça.
Mais Eidos, ils l'ont fait avec Tomb Raider, ils l'ont fait avec tout un tas de jeux comme Gex, qui était un gecko qui cachait la poitrine d'une femme alors que il y avait rien de ça dans le jeu. Enfin, sur la com, tout était sur le sexe, et ça a fait énormément de mal au personnage, puisqu'elle, dans les jeux, elle n'est pas sexualisée.
Mais elle l'est devenue au fur et à mesure.
Dans les jeux?
Oui, au fur et à mesure, plus on a avancé dans les opus de Tomb Raider.
Alors, moins maintenant.
Voilà. Mais pas dans le reboot, mais dans les premières versions. Mm-hmm. Je me rappelle d'elle avec des robes très échancrées, qui termine en nuisette juste avant de prendre son bain. Elle se retourne.
Alors, justement, il y a une anecdote sur qui a été très mal comprise, mais en fait, à la fin de Tomb Raider 2, effectivement, Lara Croft est en nuisette, puisqu'elle est chez elle. Et il y a les hommes de main du méchant qu'elle a défait dans le jeu, qui arrive pour en finir avec elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la sortie de Tomb Raider 1, il y a eu des gens qui se sont amusés à sortir un patch qui s'appelait Nude Rider pour mettre Lara Croft nue. Donc c'était pas du tout au fait des développeurs, et en fait les développeurs l'ont très 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 mal pris. Donc ils l'ont mis en nuisette en faisant espérer qu'il va y avoir une petite scène un peu torride ou quoi que ce soit. Et en fait, elle s'en va pour aller prendre la douche, et regarde la caméra, elle dit vous êtes encore là, et elle shoot la caméra, et voilà. Et en fait, moi, le message que m'a donné Gavin O'Malley, qui a eu cette idée là c'était justement de dire Lara Croft nous appartient et vous en ferez pas n'importe quoi.
Voilà. C'est vrai que Lara Croft, en fait, a été victime aussi un peu de son époque. C'est-à-dire que c'était une époque où la communication des jeux se faisait en pensant, à tort ou à raison, que le joueur, c'était un ado mal dans sa chambre, en pleine puberté, et qui voulait voir...
Mal.
Mal.
Parce que mal dans sa chambre, ça, évidemment, c'est...
Il peut aussi être mal dans sa chambre.
Un ado mal dans sa chambre.
Et donc, ils ont axé cette communication là-dessus sur vous allez jouer à notre jeu parce que regardez, l'héroïne est sexy et vous allez voir ses fesses pendant 40 heures de jeu. Et en fait, c'était effectivement pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de séparation, de dichotomie, presque dès le départ, spécial originel, quoi. C'est-à-dire que Lara Croft et Tomb Raider sont deux choses différentes. Il y a eu la Lara Croft qu'on a tous vu, et c'est pour ça que tout le monde la connaissait, qu'elle a fait des pubs, il y a eu des films, il y a eu des présences, des cosplays sur des conventions organisées par les éditeurs et tout. Et du coup, cette image-là, en fait, s'est très vite déconnectée des jeux. Et a fini par poser un problème majeur, c'est-à-dire qu'en fait, l'héroïne était de plus en plus connue quand les jeux, eux, perdait de plus en plus au pire en qualité et au mieux en reconnaissance par la critique.
Et je pense que c'est bien qu'elle ait évolué justement aujourd'hui avec la dernière trilogie et qu'elle soit peut-être plus accessible justement, plus humaine en fait.
Ouais,
je trouve qu'on peut évidemment mieux s'identifier à ce personnage. Je te laisse...
On va parler de ça dans la deuxième partie.
Enchaîner, ouais.
Donc là, vous écoutez France Inter, il est 11h33 et c'est l'heure des chiffres. Oui, parce que c'est une petite tradition qu'on a installée. Hein, désormais, il y a un questionnaire, Rain Man, c'est le moment que les invités adorent. Voilà. Donc je vais vous donner des chiffres et quand je dis qu'ils adorent, c'est vraiment ironique. Hein.
On a bien compris.
Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. 23, c'est le nombre d'actrices pressenties pour incarner Lara Croft dans le troisième volet de la franchise, l'âge qu'est censé avoir Lara Croft dans Tomb Raider 2013, ou le nombre de jeux dans lesquels le personnage de Lara Croft apparaît. 23.
J'allais dire Michael Jordan, mais c'est pas ça.
Je dirais son âge.
Je dirais son âge aussi, ouais. Je dirais son âge.
Âge ?
Alexandre. 23 jeux, ça dépend ce qu'on entend comme jeu.
C'est ça.
Voilà, les canoniques ou non canoniques, pour moi, il y en a probablement, si on réunit tout, il y en a probablement 23.
Eh bien non, c'était le nombre d'actrices pressenties pour incarner Lara Croft dans le troisième volet de la franchise.
D'accord.
6, c'est le nombre de jeux Tomb Raider développés par Core Design.
Ouais.
Le nombre de reliques provenant d'une météorite tombée en Antarctique au temps des Polynésiens. ou le nombre de personnes que comportait l'équipe à l'origine de la création du jeu.
Ah, je dirais le nombre de personnes à l'origine de la création.
Il y a un problème,
mais
il y a deux bonnes réponses.
Mais il y a deux bonnes réponses.
On est fourbe.
Mais oui.
On est fourbe, on est du signe du fourbe. Donc il y avait deux bonnes réponses. Et là, je vais faire un rire diabolique. En 30, le chiffre 30, c'est en millions le nombre total d'exemplaires du jeu vendu dans le monde depuis 1996, le nombre de tenues différentes designées pour Rise of Tomb Raider ou l'âge du créateur de l'héroïne lors de la création du jeu.
C'est pas impossible que ce soit le nombre de vêtements parce qu'il y a énormément de tenues dans Rise of Tomb Raider.
Mais moi, je serais parti là-dessus. Ouais.
Eh bien non, c'est le nombre en millions d'exemplaires du jeu vendu dans le monde depuis 1996. 30 millions. De 30 millions.
Ça en fait pas mal.
Ça fait beaucoup. Mmh.
Hein, alors là, Alexandre,
dont beaucoup sur les derniers, il me semble.
Je me suis arrêté à 2008, moi, pour mon livre, et donc les derniers, j'ai pas regardé les chiffres de vente.
On est sur du 7 d'accord. millions à peu près par.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que. Oui, d'accord. Ok. Okay.
Eh bien, écoutez, c'est bien. Ça nous a permis de continuer à donner des informations sur le sujet. Notre chère Lara Croft est brune, mais nous, on va écouter Blondie de Minuit. C'est un groupe de groove pop et électro décalé. Hein, vous devinerez jamais qui se cache derrière ce nom de groupe. C'est un duo formé par deux des enfants d'Erita Mitsuko. Alors, je rappelle, j'en profite, le temps de l'intro, cette émission a été préparée par Céline Hilla à la réalisation, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castello. La programmation musicale est toujours signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Bruno Poncelet et Élise Christophe. Vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter. C'était Blondie du duo français Minuit. Et pour les voir en concert, il faudra attendre un petit peu. Ils seront le mardi 30 octobre à Strasbourg, le vendredi 9 novembre à Champagnole dans le Jura et le mardi 20 novembre à La Cigale à Paris.
Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement.
sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité.
La cité perdue est dans ces montagnes.
Ça va pas être une partie de plaisir.
C'est pas ce qui va m'arrêter.
Alors, Tomb Raider, on a parlé de sa naissance, mais ensuite il y a eu une forme de traversée du désert et, qui a été assez importante, et un reboot en 2013, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et parlons justement de cette recréation de Lara Croft.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Core Design a développé un Tomb Raider qui s'appelait Tomb Raider L'Ange des Ténèbres, qui est sorti en 2003, qui était exécrable et pour tout un tas de raisons, en fait, que j'explique dans le livre. Donc, c'est très très long pourquoi le jeu était mauvais.
C'est bien de faire du teasing pour le livre. Non, l'émission.
Non, très, pas très vraiment, mais c'est parce que c'est très long. En fait, c'est très très long. C'est une histoire sur plus de 3-4 ans pour comprendre pourquoi le jeu a été médiocre.
Ah oui, on a pas ça.
Voilà. Et donc voilà. Et après, il est parti. La licence est partie chez Crystal Dynamics. Qui était surtout connu à l'époque pour Soul Weaver. Et en fait, ils ont fait trois jeux Tomb Raider. Ils ont fait Tomb Raider Legend, Anniversary, qui est un remake du premier, et Underworld. Et en fait, Underworld, c'est pas du tout bien vendu. Il a eu du mal à dépasser les 1 million de ventes, donc c'était quand même assez catastrophique.
Ouais. Alors qu'il est sympathique, important.
Alors que le jeu est plutôt bon, mais ouais, en fait, son moteur est plutôt bon, c'est-à-dire que la plastique est bien, mais tout ce qui est gameplay, séquence de fusillade et tout ça, c'était complètement à la ramasse. Enfin, c'était plus dans les normes de Uncharted, de Gears of War, qui était déjà là depuis quelques années, mine de rien. Et donc, il a fallu recréer le personnage entièrement de zéro et aussi changer physiquement Lara Croft, puisque la technologie dans le jeu vidéo a évolué. Aujourd'hui, on peut faire de l'ultra-réalisme, et c'est évident qu'en prenant les mensurations de la Lara Croft de 96, en essayant de mettre ça sur quelque chose de réaliste, ça fait juste en fait quelque chose de ridicule.
Et d'ailleurs, voilà. Alexandre Serrel, vous avez cité Uncharted. Est-ce que finalement, c'est pas Uncharted, et Olivier, Carole, hein, vous me confirmez ou vous m'affirmez, est-ce que c'est pas Uncharted qui a provoqué ou qui a obligé Lara Croft à se réinventer pour continuer à parler au public?
J'ai la réponse, mais
alors je te
voilà. C'est en fait non, c'est plutôt Batman Arkham Asylum. Voilà, c'est lui qui a fait un élément déclencheur chez Crystal Dynamics. Quand ils ont vu le jeu, ils se sont dit bon bah, il faut qu'on fasse au moins quelque chose qui ressemble, qui soit au moins de cette qualité-là. Donc voilà. Mais après, effectivement, pour le reboot de Tomb Raider, ils ont plus été chercher par exemple des personnes qui avaient travaillé sur Assassin's Creed. Donc c'est marrant. Hein, on se dit les jeux se ressemblent et finalement il y a des nuances à faire quand même.
Mais ce qui est intéressant dans ce reboot, c'est qu'on a une Lara Croft. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Moi, je trouve qu'on peut s'identifier encore davantage à elle, parce que c'est vrai que c'est, même si elle a été inspirante pour toute une génération, c'était une jeune femme qui avait toutes les qualités du monde, qu'elle soit physique ou mentale. Mm-hmm. Et là, on a une jeune femme dans le premier épisode donc du reboot en 2013 qui arrive, qui est un petit peu paumée, qui est là, qui n'est pas encore une Lara Croft aguerrie.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment intéressant en tant que joueuse de pouvoir me dire mais tiens, j'ai une nana qui ça pourrait être moi finalement, et je me suis reconnue en elle avec ses peurs, avec ses doutes. Mmh. Et je pense que ça a été à ce moment-là que j'ai le plus apprécié la série, sans compter les premiers épisodes.
Et d'ailleurs, ce reboot est inspiré du film The Descent de Neil Marshall, énormément, où il y avait un personnage qui était une sorte de proto-Lara Croft avec un piolet, exactement comme l'outil qu'elle a dans le film.
Un film horrible, mais génial. Hein, ouais, moi, génial, je suis fan de films d'horreur, etc. Mais attention, si vous êtes un petit peu...
En fait, le reboot, c'est là aussi que Tomb Raider passe du jeu d'aventure-action au jeu de survie-action. C'est à la fois lié à l'histoire en fait qui développe dans ce truc-là, qui est donc Lara Croft, qui est une jeune héritière un peu irresponsable, qui part un petit peu par goût de la provoque en fait en aventure, et qui va s'échouer sur une île peuplée de mercenaires brutaux et de monstres divers et variés. Et
c'est-à-dire qu'elle arrive, c'est Paris Hilton, et elle repart de l'île, c'est la
Marseille. C'est la Lara Croft qu'on connaît presque. Voilà, c'est ça. C'est comment elle va arriver. C'est pas vraiment une sorte de vengeance, parce que c'est pas ça, mais c'est quasiment une vengeance contre les éléments et contre le destin qui l'a poussée à tout ce qu'elle subit sur place. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce reboot, c'est que je trouve, je dis ça de la façon la plus positive possible, mais je trouve que c'est une formidable arnaque, parce que les premières images du jeu, il y avait eu une polémique d'ailleurs là-dessus. Il y avait des critiques qui avaient vu les premières images et qui avaient dit ah, c'est génial, enfin on va la voir en difficulté, se faire arracher ses fringues et tout ça et tout.
Il y a eu une polémique justement sur le sexisme des premières images qu'on voyait. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte quand le jeu est arrivé que c'était un gros appât pour faire ça. C'est qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est comment Lara Croft, en tant que femme, pleinement, va réussir à se dresser contre tout ça. Donc à la fois contre les hommes, contre l'environnement, presque comme contre la société en fait, parce que c'est quasiment la symbolique du truc. Et elle va en émerger non seulement victorieuse, mais encore plus forte et encore plus capable d'aller plus loin. Et la suite poussera ça encore un peu plus sur le côté, elle va en plus dépasser l'héritage du père et le détruire.
Alors Tomb Raider, comme de nombreux jeux vidéo, a été adapté en film, hein, et ce genre d'initiative, au masque et la plume par exemple, eh bien, il n'aime pas. C'est le moment « j'aime pas ».
J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas.
La réalisation, bon bah dès qu'il y a des scènes d'action, c'est la technique hollywoodienne actuelle, c'est-à-dire un plan toutes les deux secondes, on ne voit rien. Plastiquement, le film n'est pas du tout séduisant. Moi, ça m'a ennuyé complètement.
Il n'y a pas de scénario, c'est n'importe quoi.
Ce film est absolument consternant de veulerie par rapport aux méchants. Ils ont peur des méchants.
Mademoiselle Jolie m'a séduit, Lara Croft beaucoup moins.
Donc, mes camarades ayant dit tout ce qu'il y avait à dire, franchement, je suis tranquille, c'est nul.
J'aime pas, j'aime pas.
Eh bien, je crois qu'on ne peut pas vraiment leur donner tort.
Non, une fois n'est pas coutume, on est d'accord avec le masque et la plume.
Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que c'était pas terrible. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut. Je pense que le film avec Angelina Jolie a une lourde part de responsabilité justement dans le fait que Lara Croft ait été à un moment donné plus connue encore, plus sous le feu des projecteurs que l'univers du jeu, parce que c'est vrai qu'on ne voyait plus qu'elle, on ne voyait plus qu'Angelina. Effectivement, le côté sexy, etc. Ouais. Et je pense que c'est aussi à partir de là qu'il y a eu pas mal de débats autour de la femme, de la sexualisation, etc.
Mais d'ailleurs, je pense que Lara Croft incarne même l'image d'Angelina Jolie dans sa carrière d'actrice. C'est-à-dire qu'après Tomb Raider, il y a eu une évolution d'Angelina Jolie vers autre chose.
Ouais. Non, mais le film Tomb Raider, c'est l'apogée en fait, de ce détournement, si on peut dire, du personnage. C'est vrai que... Et ce qui est très compliqué aussi, c'est un truc qui est très typique des adaptations de jeux vidéo. C'est pour ça qu'on ne peut même pas en vouloir aux gens qui ont fait le film, c'est que c'est quasi impossible de retranscrire Tomb Raider en film, parce que Tomb Raider, c'est ce qu'on disait un petit peu au début de l'émission, c'est des sensations d'abord, c'est des impressions. C'est se retrouver seul dans une tombe, seul dans une grotte, face à l'adversité. C'est tellement de ressenti, en fait, que passer ça en passif, en regardant juste un écran, d'un seul coup, ça paraît creux parce qu'on n'a pas tout ça.
Ça n'a rien à voir. Effectivement, quand tu joues à un jeu, tu es acteur. Tu es acteur. Quand tu regardes un film, tu restes spectateur. Et c'est vrai que tu es un petit peu extérieur à tout ce qui se passe finalement. Comme tu le dis, aux sensations qui font en fait, qui font tout ce qu'est le jeu vidéo.
Tu es acteur et en même temps, tu subis aussi presque plus personnellement ce qui se passe dans le jeu.
Bien sûr.
Et on peut aussi évoquer le dernier Tomb Raider avec Alicia Vikander, actrice brillante qu'on avait découvert dans Ex Machina, The Danish Girl, pour lequel elle a eu un Oscar, et qui a brillamment interprété la nouvelle Tomb Raider, mais dans un film qui n'est pas très bon.
Bah alors moi, je suis entièrement d'accord. Voilà, moi c'est une actrice. Non mais voilà, mais je crois qu'il y a rien à rajouter.
C'était la séquence j'aime pas. Hein, voilà, je te le rappelle.
Moi je trouve l'actrice formidable. D'ailleurs je l'avais vue dans Ex Machina avant et je me suis dit bon bah ils l'ont pris pour Lara Croft. Bon il y a eu énormément de polémiques envers le physique d'Alicia Vikander et celui de Lara Croft qui était un peu lourd sur la fin. Ça commence à être long. Moi je trouve qu'elle a incarné Lara Croft à la perfection. Enfin vraiment elle joue vraiment très bien le personnage. Par contre le film est pas bon quoi. Il est vraiment pas bon. Il est pas à la hauteur de ce qu'elle a donné pour le film, quoi.
Ouais, parce qu'elle fait vraiment le job, quoi. Ouais. Au-delà justement du physique, parce qu'il y en a marre quand même d'entendre les gens toujours dire ah, si elle a pas le physique, ah, parce qu'elle a pas de poitrine, ah, parce qu'elle a pas ceci, qu'elle a pas cela.
C'est consternant. Dire,
Lara Croft, c'est pas qu'un physique. C'est ce que je disais
au début. C'était surprenant. Parce que quand on la voit, Alicia Vikander, on se dit. Bon, tiens,
mais à partir du moment où elle incarne le personnage dans l'attitude, dans le, tu vois ce que je veux dire, dans la manière de faire, c'est une femme qui est voilà, qui est courageuse, qui est pleine de, qui a ses peurs, ses doutes, hein, comme je le disais, mais qui va de l'avant. C'est une nana qui est voilà, qui est posée là dans ses bottes, dans son short ou dans son pantalon, que sais-je. Mais c'est vraiment une nana qui a du caractère, qui a une personnalité. Donc on s'en fout qu'elle ait de la poitrine ou pas finalement. Et les gens n'arrivent pas à aller au-delà de ça. Et ça, c'est vraiment dommage.
Et quand on dit les gens, c'est hommes comme femmes. Hein, les critiques ont été universelles. Et d'ailleurs, comme femme sur son physique.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient très souvent concernant Lara Croft, c'est-à-dire qu'on s'arrête à la forme et on passe quand même assez souvent à côté de ce qui moi, me pose pas de problème, mais m'interroge quand, tout de même, qui est le fait que Lara Croft, dans les jeux et dans les films, c'est une sociopathe. C'est-à-dire qu'elle laisse quand même.
C'est un personnage extrêmement brutal.
Et ça, ça ne dérange personne. C'est dans le rapport du personnage au jeu vidéo, elle tue un nombre incroyable d'ennemis. Et au bout d'un moment, on a presque plus d'empathie pour le troufion de base qui va tomber sur son chemin.
Il y avait quelque chose d'intéressant quand ils avaient un peu tenté de rebooter un peu de redémarrer la franchise avec Tomb Raider Anniversary qui, comme on disait,
était
un remake du premier. Il y avait quelques petits détails qui changeaient par rapport à l'histoire et au déroulé du premier. Il y avait notamment un truc qui était que dans Tomb Raider Anniversary, quand elle tue pour la première fois un être humain, il y a quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'anodin, alors que effectivement avant c'est une psychopathe, elle tue à peu près tout ce qui bouge. D'ailleurs le jeu était conçu comme ça au départ. Tout ce qui bouge est dangereux.
En fait, dans les documents de game design, en fait ils se disaient que c'était pas terrible de tirer sur des gens, et en fait ils avaient décidé pour le premier Tomb Raider de prendre des animaux ce qu'on appelle nuisibles, c'est-à-dire que on les rencontre en vrai, à mon avis on en ressort vraiment pas vivant, tu tombes devant un ours.
Même si je pense qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de gens qui seraient prêts à débattre sur la dimension d'animaux nuisibles.
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est trop facile de dire que c'est nuisible. Tu vois, par exemple, Pascalion fait le mal quand il tue une biche. Tu vois, ça, c'est une phrase.
Non, mais en fait, c'est pas moi qui dis ça. C'était les documents de game design.
Attention, Alexandre.
Oui, je sais que c'était toi.
Non, mais en fait, ils avaient dit, bon, ça va être mieux pour l'image du jeu vidéo de pas tuer des humains et mettre des ce qu'on appelle nuisibles, c'est-à-dire des animaux qui font peur, qui voilà. Et en fait ils se sont pris une volée de bois vert parce qu'ils se sont dit non mais attendez, vous butez des animaux qui sont protégés quoi quand même, enfin c'est grave. Bon, après, il a fallu rappeler que c'était que du virtuel, que c'était pas vrai, c'est du jeu vidéo.
C'est du jeu vidéo, quoi. Il faut pas non plus tout confondre. Je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais.
Alors, on arrive au moment préféré des invités, c'est le blind test made in Blockbuster. Alors, il y a certes Lara Croft comme héroïne connue du monde du jeu vidéo, mais il y en a d'autres. Donc, on va vous passer des thèmes associés à ces grandes figures féminines du gaming. Saurez-vous les reconnaître ?
Samus Aran, Metroid.
Oh oui.
Oh là là, très bonne réponse, Olivier Bénis.
Qui est en vrai la première vraie héroïne de jeux vidéo, sauf que les gens ne le savaient pas.
Ils ne le voyaient pas.
Voilà.
Et en fait, il fallait qu'elle perde.
En fait, quand on perdait, on mourait, mais quand on finissait le jeu en dessous d'un certain nombre d'heures, elle enlevait son casque, s'apercevait que c'était une femme.
Et je crois que plus on avançait, plus en fait, elle était de moins en moins habillée sous l'armure.
C'est la première héroïne féminine, mais pas féministe. Pour le coup, très clairement.
La récompense était en fait de l'avoir à moitié nue, donc c'était pas forcément très moderne. Et extrait suivant.
Chun-Li.
Oh là là, Olivier Bénis.
Street Fighter.
Oui, Street Fighter. Chun-Li avec son fabuleux Yatta.
Yatta.
Tu le fais très
extrait
bien.
The Last of Us. Ellie.
Très bonne réponse. Mmh. The Last of Us. Alors, on écoute un petit peu.
Oh, Santa, oh là là. Ouais.
Un jeu incroyable.
Exceptionnel.
Et la suite s'annonce
vivement la suite.
Formidable, et elle a déjà fait polémique avant même, chez les mauvaises personnes.
Oui, mais... Parce qu'Ellie, elle tue pas des animaux. Hein.
Et en plus, il semblerait que ça soit le premier personnage LGBT
ouvertement lesbien,
ouvertement affiché en fait.
Bah, je trouve que c'est très bien.
C'est très bien.
En fait, moi, surtout, je me demande ce que ça va.
Alors, on me dit d'ailleurs, c'est LGBT. J'ai mal dit l'acronyme en fait.
Ça n'est point grave.
Voilà, il y a la rédactrice qui me dispute, qui me dit n'importe quoi, sort des mails.
Il y a eu une bande annonce justement où elle embrasse une autre jeune fille. Et je trouve que c'est un des plus beaux baisers cinématiques, le plus beau baiser de jeu vidéo que j'ai vu avec lui.
Moi, je suis curieux de voir où ça va aller, justement.
Extrait suivant. Alors là,
Zelda.
Oui, Zelda.
Et voilà, mais je c'est juste pour le kiff de le réécouter.
Oui.
La berceuse.
Voilà. Zelda qui, pendant longtemps, a quand même été, justement, là, une sorte de faire-valoir dans les jeux.
De MacGuffin, en fait. Plutôt, comme le définissait Hitchcock, c'est un truc qui sert uniquement à faire avancer le héros.
C'est ça.
Extrait suivant.
Bayonetta.
Ah.
Alors, je suis pas du tout Bayonetta, moi. Je te le dis comme ça. Je sais qu'on va se disputer dehors.
Alors, Bayonetta qui a été créé par le créateur d'un autre grand jeu qui s'appelle Devil May Cry. C'est un jeu d'action absolument formidable où justement là on a affaire à un personnage hyper ultra sexualisée, mais à un tel point
mais c'est fait exprès.
Qu'elle en devient complètement neutre.
C'est ça.
Donc voilà, c'était un hommage. Bon, bah, c'était un très bon blind test, je suis très content. Voilà, et on va passer à une nouvelle chanson. On reste dans une programmation musicale très féminine aujourd'hui avec la française Jane qui chante All Right. Un peu comme Lara Croft, elle a grandi en voyageur à travers le monde pour suivre le travail de son père, mais dans une compagnie pétrolière cette fois-ci. Elle a notamment passé de nombreuses années en Afrique et ça se ressent dans sa musique. Elle a croisé des influences reggae, pop, world et électro. On écoute All Right. C'était Jane avec All Right dans Blockbuster sur France Inter. Alors, elle sera en concert tout l'été, le samedi 14 juillet au Francopholis de La Rochelle, le dimanche 15 juillet au festival Décibule à Neuf Églises et le jeudi 19 juillet au festival de Carcassonne. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Il y aura encore plein de choses à dire sur le statut des femmes dans les jeux vidéo, surtout que le monde est en train de changer. Olivier Bénis, oui. J'ai vu un article que vous avez écrit sur notamment l'E3, le dernier E3.
Oui.
Où effectivement...
C'était Hélène Chevalier pour rendre à César ce qui est César.
Ah, donc en fait, vous pouvez partir et vous pouvez faire venir Hélène Chevalier, s'il vous plaît. Et sur l'importance des femmes dans les jeux vidéo, dans les jeux
vidéo. Oui, parce que le dernier E3, en fait, alors c'est pas vraiment une première que les femmes apparaissent dans le jeu vidéo. Il y a eu énormément d'héroïnes, mais c'était, je trouve, le premier E3. Donc l'E3, c'est le salon mondial du jeu vidéo, c'est un peu la grand-messe annuelle. Et c'était la première fois que les personnages féminins étaient autant mis en avant. Sans que ce soit des faire-valoir ou des trucs un peu gadget ni rien. Il y avait vraiment des héroïnes fortes. On parlait d'Ellie tout à l'heure dans The Last of Us 2. Voilà, il y avait quelque chose. Ça a beaucoup, beaucoup fait réagir. Et je pense que c'est pas mal parce que c'est pas forcément un parti pris facile pour les éditeurs. C'est que ça a l'air d'être de la com comme ça, mais en fait, bof.
Eh bien, merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour parler manga, piraterie et K-pop et Japan Expo. Demain, on parle du manga One Piece. Bonjour Dorothée Barba.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Ça vous fait rire les sujets de Blockbuster.
J'allais dire salut les geeks, mais on m'engueulerait.
Transition facile parce que Tomb Raider, on se demande si c'est un jeu féministe. Aujourd'hui, le débat de midi s'interroge sur la langue française. La langue est-elle sexiste? Et l'écriture inclusive dont on a beaucoup parlé cette année, est-ce vraiment un péril mortel pour la langue, comme l'a dit l'Académie française? Une académicienne sera là pour nous répondre et on attend les réactions des auditeurs sur franceinter.fr.
Parfait, on va écouter ça. Je remercie les invités et on se retrouve demain.